Quand on allume la lumière chez soi, la plupart du temps, on se pose absolument aucune question sur le fonctionnement de la centrale électrique.
Non, c'est clair, on n'y pense jamais.
On appuie juste sur un interrupteur, la pièce s'éclaire, l'action est immédiate. C'est vraiment le triomphe d'un service invisible, un truc purement utilitaire en fait.
Et cette invisibilité, c'est précisément ce qui rend cette infrastructure si puissante.
Ouais, c'est ça.
Tant que le courant passe, personne ne remet en question le réseau qu'il transporte, ni même, tu sais, les règles qui le régissent.
Sauf que, imaginons un instant que cette même électricité commence soudainement à, décider des livres qui méritent d'être lus, ou de la façon dont les entreprises investissent leur argent.
Ah oui, là ça deviendrait flippant.
Ou même de la structure de nos débats politiques. Le regard qu'on poserait sur ce simple interrupteur, il changerait du tout au tout.
Complètement.
Ce serait plus juste un petit outil technique sympa, mais carrément une force systémique capable de dicter la marche d'une société entière.
En gros, on passerait d'une simple commodité à une forme de gouvernance invisible.
Voilà, c'est le mot.
Et cette transition-là, c'est très exactement ce qui est en train de se produire avec l'intelligence artificielle en ce moment.
Ouais.
On n'est vraiment plus dans la phase de l'outil amusant qui génère des images bizarres ou qui corrige nos fautes d'orthographe. On entre de plein pied dans la phase de l'infrastructure critique.
Et c'est exactement le cœur de notre exploration approfondie aujourd'hui. On plonge dans un document qui est d'une densité assez remarquable.
Très dense, oui.
C'est le numéro 05 du magazine marocain IA Mag. Il vient tout juste d'être publié aujourd'hui même, le 22 mai 2026.
C'est une super source pour prendre un peu de recul, pour le coup.
Exactement. L'objectif de notre analyse, c'est vraiment de traverser l'épais brouillard du battage médiatique qu'on a en boucle. Le magazine utilise le Maroc un peu comme un laboratoire grandeur nature.
Ouais, un laboratoire pour observer des défis qui, au fond, sont totalement mondiaux.
C'est ça l'idée. Comprendre comment cette technologie redessine l'économie, la souveraineté des États, l'écologie et jusqu'à l'essence de nos valeurs humaines.
Et les sources qu'on analyse aujourd'hui, elles mettent en lumière un vrai carrefour civilisationnel.
Un choix à faire, en gros.
Totalement. La trajectoire technologique actuelle, elle force une décision très claire. Soit on accepte une adoption par une dépendance, on va dire, presque aveugle, à des plateformes conçues à l'étranger.
D'accord.
Soit ça passe par une intégration souveraine qui préserve vraiment notre autonomie de décision.
Bon, décortiquons tout ça. Et je propose qu'on commence par le terrain. Là où le déploiement est le plus massif et le plus rapide, c'est le monde de l'entreprise.
Oui, c'est là que ça frappe en premier.
Parce que avant de toucher aux grandes questions philosophiques sur la souveraineté, faut bien comprendre le moteur de cette adoption foudroyante. Et la promesse initiale, c'est une explosion de la productivité.
Ah ça, c'est l'argument de vente numéro un, c'est sûr.
Le magazine détaille le lancement du pacte TPME par Maroc PME en avril dernier. Leur but assumé, c'est d'automatiser 20 à 30% des tâches administratives répétitives dans les PME.
C'est énorme. Parce que pour un dirigeant de PME qui gère souvent la compta, les ressources humaines, le développement commercial en même temps...
Il fait tout, quoi.
Voilà. Gagner 2 heures par jour, c'est pas du tout un luxe, c'est carrément une question de survie.
Utiliser l'IA générative pour rédiger des devis ou analyser les tableaux de vente, on va dire que c'est la première étape.
Oui, la base.
Mais là où l'analyse devient vraiment captivante, c'est quand on observe le passage de cette simple petite automatisation de confort à la résolution de problèmes mathématiques structurels.
Et le document donne un exemple extrêmement concret là-dessus avec la start-up marocaine Avdal.
Ah oui, Avdal, fondée par Bachir Ben Slimane. Ils ont monopolisé l'attention au GTEX Africa récemment.
C'est ça. Cette entreprise, elle a mené une étude par client mystère en février 2026 sur le marché du crédit immobilier.
Et les résultats sont dingues. Leur conclusion montre que, accroche-toi bien, 78,6% des informations fournies par les banques à leurs clients sur les plans de financement étaient tout simplement inexactes.
Ou sous-optimales, ouais.
C'est quand même fou. Près de 80% d'erreurs ou de mauvais conseils sur un crédit IMO.
Et le mécanisme derrière ce chiffre colossal, il mérite vraiment qu'on s'y arrête. Parce que ce taux d'erreur, il ne provient pas d'une incompétence humaine ou d'une volonté d'arnaquer le client.
Ah bon? C'est quoi alors?
En fait, ça s'explique par les limites physiques des outils qu'ils utilisent. Un conseiller bancaire équipé d'un tableur classique, genre Excel, il ne peut juste pas gérer la combinatoire d'un crédit immobilier moderne.
Attends, la combinatoire, c'est-à-dire?
Si tu croises les taux variables, les différentes assurances emprunteurs, les durées de remboursement, les différés de paiement et les apports personnels.
Ouais, ça fait beaucoup de variables.
Voilà. Tu n'obtiens pas 3 ou 4 options, tu obtiens des dizaines de milliers de combinaisons possibles pour un seul dossier.
Ah oui, d'accord. Le cerveau humain, même avec un logiciel traditionnel, il s'arrête dès qu'il a trouvé une solution qui, on va dire, fonctionne à peu près.
C'est exactement ça. Il ne peut jamais garantir que c'est la meilleure absolue.
Et c'est là qu'intervient le moteur propriétaire d'Avdal, qu'ils appellent PPEO. Ce système, il calcule l'exhaustivité de ces milliers de combinaisons en moins de 30 secondes.
Moins de 30 secondes, c'est la puissance de calcul à l'état pur.
Et la source insiste sur un truc génial, c'est qu'ils ont surpassé les outils internationaux prestigieux. Ils parlent des chatbots américains comme Betsy ou Bob 2.0.
Oui, et la différence fondamentale, elle réside dans l'architecture même de ces intelligences.
Comment ça?
Les outils comme Betsy ou Bob 2.0, ce sont des grands modèles de langage, des LLM.
Ok.
Leur fonction première, c'est de prédire le mot suivant pour imiter une conversation humaine. Donc, ils parlent extrêmement bien, mais au fond, ils ne calculent pas.
Ah, je vois. Alors que le moteur d'Avdal, c'est différent.
L'infrastructure agentique développée par Avdal, elle ne cherche pas à te faire la conversation. Elle utilise l'IA pour orchestrer des calculs super complexes pour trouver l'aiguille dans la botte de foin mathématique en temps réel.
Si on file un peu la métaphore, les chatbots classiques, en fait, ils se contentent de te décrire la carte routière avec beaucoup d'éloquence.
Ouais, ils te font un beau discours sur la route.
Alors que l'outil spécialisé, lui, il fonctionne comme un GPS de nouvelle génération. Il te montre pas juste la route, il la construit en temps réel. Il anticipe tous les embouteillages financiers pour te donner la trajectoire parfaite à la seconde près.
C'est une super image. Et oui, c'est une très belle victoire pour l'écosystème local.
Néanmoins, faut poser la question de la réalité du marché, tu vois. La très grande majorité des PME, elles n'ont pas les moyens de développer les moteurs propriétaires.
Non, ce n'est évident. Par manque de temps, de budget, de compétences.
Bah oui. Du coup, la solution la plus probable, ce ne sera pas simplement de souscrire à l'abonnement le plus simple proposé par un géant de la tech étranger. Enfin, n'est-ce pas le chemin direct vers un nouveau type de vulnérabilité ?
Ben, tu mets le doigt dessus. Cette quête de la facilité immédiate, c'est vraiment le tendon d'Achille de la transition numérique.
Parce qu'on leur donne les clés de la maison.
Exactement. En déléguant le cœur de leur gestion à des solutions externes prêtes à l'emploi, les entreprises transforment ces infrastructures en vecteurs de dépendance géopolitique.
La centralisation de toutes ces données professionnelles, ça soulève des questions juridiques énormes. Le magazine Pointe dégant très directement les risques liés à l'hébergement sur des serveurs soumis au Cloud Act américain.
Et c'est un point crucial. Le Cloud Act, c'est une législation extraterritoriale.
C'est-à-dire que ça s'applique hors de leurs frontières.
Oui. Ça permet, sous certaines conditions, bien sûr, aux autorités américaines d'exiger l'accès aux données hébergées par des entreprises américaines. Et ça, même si les serveurs sont physiquement situés dans d'autres pays.
Donc, confier la compta, les secrets industriels, les données clients d'une entreprise marocaine à ses serveurs, c'est carrément exposer ces informations à une juridiction étrangère.
C'est ça le danger. Et la solution avancée dans la source, elle s'articule autour de la loi marocaine 0908 et d'un concept très spécifique, le privacy by design.
Ah, le privacy by design. C'est un principe qui modifie complètement la façon de concevoir un logiciel.
Vas-y, explique-nous un peu. Au lieu de construire une application et puis de rajouter des mots de passe et des pare-feu à la fin du processus.
Un peu comme on mettrait une alarme sur une maison déjà finie.
Voilà. Le privacy by design impose que la protection des données soit intégrée dans l'architecture même du code, dès le premier jour.
D'accord.
C'est vraiment comme construire un bâtiment où les murs eux-mêmes empêchent la collecte d'infos, plutôt que juste embaucher un vigile une fois que tout est bâti.
Et ça s'accompagne aussi d'un virage vers les modèles en open source, non ?
Tout à fait. Des modèles comme Mistral ou Llama. Leur code est public et on peut les installer sur des serveurs locaux, ce qui garantit que les données ne quittent jamais le territoire.
Mais la souveraineté, ça ne s'arrête pas au fichier client ou au devis. Hein. L'article aborde un territoire bien plus critique. C'est la souveraineté monétaire.
Oh oui, le gros morceau. L'économiste Abderrahmane Senegi introduit la notion de tokenisation du dirham et de monnaie programmable.
Monnaie programmable. Rien que le terme, ça fait science-fiction.
C'est une rupture totale avec le système financier classique.
Comment ça marche concrètement ?
Actuellement, la finance repose sur des règles ex post.
Ex post, donc après coup.
C'est ça. Une transaction a lieu et puis ensuite, les banques, les régulateurs ou les auditeurs vérifient si elle était légale, si les fonds étaient là, si les impôts ont été payés.
On vérifie une fois que c'est fait.
Voilà. L'intelligence artificielle couplée à la blockchain, ça permet de passer à des règles ex ante.
Donc, la règle s'applique avant même que l'action ne soit possible.
Le mécanisme, ça ressemble beaucoup à celui d'un distributeur automatique de boissons.
Ok, je vois l'image.
Par opposition à, disons, une petite boîte de paiement basée sur la confiance. Dans la boîte de confiance, tu prends un produit, tu es censé laisser une pièce et en vérifier plus tard s'il manque de l'argent.
C'est le ex post.
Exact. Le distributeur automatique, lui, c'est une machine ex ante. Si la pièce n'est pas insérée, le mécanisme physique bloque tout simplement la chute de la boisson.
La transaction est juste impossible physiquement si les conditions ne sont pas réunies.
C'est l'idée. La monnaie programmable, elle intègre les conditions d'utilisation, les limites de dépenses ou même le paiement automatique des taxes directement dans le code de la devise.
Et la conclusion logique de tout ça, c'est que si un État laisse des entreprises étrangères construire ces fameux rails numériques sur lesquels circule cette monnaie, cet État, il abandonne tout simplement le contrôle de son économie.
C'est l'équivalent de donner les clés de ta banque centrale à un acteur privé extérieur.
Un acteur qui pourrait, d'une simple petite mise à jour logicielle, modifier toutes les règles de transaction d'un pays entier.
C'est terrifiant quand on y pense. La perte de contrôle sur l'infrastructure, ça signifie la perte de contrôle sur la politique monétaire.
Mais cette dépendance technologique, elle déborde carrément de l'économie pour infiltrer notre espace public, l'espace démocratique.
Ah oui, la polarisation.
Le magazine illustre cette porosité avec un cas d'école très récent aux États-Unis. C'est l'image générée par IA, publiée par Donald Trump sur Truth Social.
C'est où on le voit avec un extraterrestre.
Voilà, on le voit aux côtés d'un extraterrestre dans une base secrète. Et bon, petite parenthèse, on rapporte ce fait de manière strictement neutre ici, on prend pas parti.
Oui, on analyse juste la mécanique derrière.
Le contexte, c'est qu'à cette image a été diffusée très exactement au moment où des dossiers officiels sur les phénomènes anormaux non identifiés, les UAP, étaient en cours de déclassification.
Donc le but, c'était clairement pas de partager une information véridique.
Non, c'était de faire du bruit. Et l'analyse de cet événement met vraiment en lumière la mécanique interne des algorithmes de recommandation.
Parce que les IA qui gèrent nos flux d'actualité, elles sont pas du tout programmées pour évaluer la vérité ou la nuance.
C'est quoi leur but alors ?
Leur métrique principale, leur seule nourriture en fait, c'est l'engagement. Les clics, les commentaires, les partages.
D'accord. L'algorithme, il détecte qu'une image absurde ou très polarisante, ça génère des réactions émotionnelles intenses. Donc, il va la propulser massivement. Et donc, la génération d'images par IA devient une méthode carrément industrialisée pour inonder l'espace politique, saturer notre attention et empêcher tout débat sur le fond.
Si l'infrastructure privilégie toujours l'absurde juste parce que ça s'aligne avec son besoin d'engagement, ça veut dire que la machine oriente la nature même de nos débats.
Et ça nous mène tout droit à la troisième grande réflexion de ce numéro.
Qui est fondamentale d'ailleurs.
Si une société délègue la gestion de ses entreprises, de sa monnaie, de ses débats, à des algorithmes extérieurs, elle finit par déléguer sa propre façon de raisonner.
Et ça, c'est ce qu'on appelle la souveraineté cognitive. L'Observatoire de l'intelligence artificielle, l'OIA, a d'ailleurs acté un changement hyper symbolique là-dessus.
Qu'est-ce qu'ils ont fait ?
Ils ont transformé leur indice de maturité IA marocain pour en faire un indice européen de souveraineté numérique et cognitive.
Oh, c'est un changement de paradigme !
Totalement. L'objectif, c'est plus juste de compter, tu sais, combien de boîtes ont acheté des licences logicielles. C'est vraiment d'évaluer dans quelle mesure on conserve notre autonomie intellectuelle face aux recommandations de la machine.
Et ce débat sur l'autonomie intellectuelle, il a trouvé un écho particulier lors du café IA qui s'est tenu à Fès le 14 mai dernier.
Oui, organisé avec l'ENES Fès.
Le choix de Fès, c'est pas anodin. C'est une ville ancrée dans l'histoire de la transmission du savoir, de l'artisanat. Ça offre un contraste assez fou avec la culture de la Silicon Valley, quoi.
Et les propos de Walid Malam lors de cet événement, ils sont d'une lucidité frappante.
Qu'est-ce qu'il disait ?
Aucune intelligence au sens humain. Ce sont juste des moteurs statistiques.
Ils calculent des probabilités, en gros ?
Voilà. Ils calculent la probabilité qu'un mot succède à un autre en se basant sur les milliards de textes qu'ils ont ingurgités. Mais la distinction qu'il fait est cruciale.
Ah, vas-y.
Un logiciel classique, il exécute un ordre figé. Mais un algorithme d'IA prédictif, ça impose une manière de penser.
Parce que les données ingérées, elles portent inévitablement les biais de la culture qui les a produites.
Exactement.
Par exemple, imaginons qu'on demande à un LLM conçu en Californie de proposer une solution pour un conflit de voisinage.
Ok.
Ces données vont statistiquement le pousser à suggérer des démarches légales, genre appeler un avocat, invoquer les droits individuels.
Oui, très américain.
Alors que si tu poses la même question à un système nourri par une culture méditerranéenne ou marocaine, la réponse devrait naturellement s'orienter vers la médiation communautaire, le respect des anciens.
La recherche d'un consensus, quoi. Le risque, c'est vraiment l'assimilation cognitive silencieuse.
C'est-à-dire ?
Si on demande à une IA d'écrire en Darija, Bon, on utilise la langue locale. Mais si le raisonnement profond, les valeurs en dessous, c'est dicté par un modèle de la Silicon Valley...
Ben, on importe discrètement une nouvelle vision du monde sous couvert de traduction.
C'est une standardisation culturelle invisible. C'est pour ça qu'à Fès, ils ont fait la démonstration d'un modèle pseudo-local, spécifiquement entraîné sur des données facies.
Pour essayer de préserver cette diversité d'approches.
Exactement.
Mais cette expansion technologique qui cherche à modéliser jusqu'à notre pensée, elle semble avoir aucune limite. Sauf que le magazine consacre sa dernière partie à un truc inévitable. Le mur du réel.
Et oui, on finit toujours par se cogner à la réalité physique.
Les algorithmes finissent par se heurter aux contraintes physiques de la planète. Et le premier mur, bah, il est écologique.
L'exemple de Bangalore en Inde, analysé par Mohamed Haït Bellassen, c'est le cas typique. Ça déconstruit complètement le mythe du numérique immatériel.
C'est vrai qu'on utilise le mot cloud, le nuage pour le stockage. Ça donne l'impression d'un truc léger qui flotte.
Alors que la réalité physique est radicalement différente. Les cerveaux de l'IA, c'est des immenses usines remplies de serveurs qui tournent à plein régime.
Et ces machines, elles chauffent. Elles génèrent une chaleur extrême. Et il faut des millions de litres d'eau douce pour refroidir les systèmes de clim.
Et c'est là que Bangalore devient un exemple tragique. C'est célébré comme une réussite technologique mondiale, une Silicon Valley asiatique gorgée de capitaux.
Sauf que le corollaire de tous ces data centers, c'est que la ville a détruit ses lacs et épuisé ses nappes phréatiques.
La population dépend aujourd'hui d'une noria quotidienne de camions-citernes juste pour avoir de l'eau potable.
C'est affolant. C'est comme installer un énorme moteur de Formule 1 dans une bagnole qui n'a plus de frein et plus une goutte de carburant.
Le contraste entre la haute technologie des algorithmes et la lutte physique quotidienne pour l'eau, ça révèle une vraie faille systémique.
Et à leçon pour le Maroc ou tout autre pays, elle est claire. Une stratégie IA sans soutenabilité urbaine et hydrique s'est vouée à s'effondrer.
Et le mur du réel, il se manifeste aussi dans un autre domaine fondamental, l'éducation.
La transmission du savoir, ouais. Adnan Benchakroun souligne que l'éducation fait face à une sacrée crise de sens.
Bah oui, l'IA est maintenant capable de rédiger des dissertations parfaites, de résoudre des problèmes scientifiques en quelques secondes. Les devoirs à la maison, c'est fini.
Du coup, l'évaluation de la production écrite perd toute sa valeur. Si le prof évalue juste la capacité de la machine à générer du texte, le gamin n'apprend plus rien.
Benchakroun plaide pour un changement de paradigme. Arrêter de noter la production mécanique et se recentrer sur l'oralité, la présence physique, la démonstration de l'esprit critique en direct.
Esprit critique qui est d'ailleurs indispensable pour survivre face aux deepfakes, hein ?
Totalement.
Bon, c'est super en théorie, difficile de ne pas être d'accord, mais faut confronter ça au terrain.
Oui, la réalité des classes.
Dans un système éducatif déjà surchargé, avec 30 ou 40 élèves par classe, où les profs croulent sous l'administratif, demander de faire du sur-mesure à l'oral, c'est pas un peu utopique face à la déferlante de ChatGPT ?
C'est clair que le défi logistique est titanesque. L'écart entre la belle théorie et la salle de classe, il est béant. Mais la question sous-jacente reste là. C'est quoi la valeur ajoutée de l'humain si la machine réfléchit pour nous ?
Et le monde du travail est face au même vertige. L'IA ne remplace pas nos muscles, elle remplace notre analyse cognitive.
D'où la nécessité de revaloriser les métiers du lien interpersonnel, du soin, de l'accompagnement. L'auteur évoque même l'idée d'un service civique adulte.
Et ça, ça trouve un écho super intéressant dans la stratégie de Nourdin Biman, le franco-marocain nommé à la tête de Connecta avec son plan Catalyst 2028.
Connecta, qui gère des centres de contact, un secteur vraiment en première ligne face à l'IA.
Et l'approche de Biman, elle refuse la vision purement comptable, tu sais, de juste virer les gens pour les remplacer par des IA.
Il choisit la voie de la compétence augmentée. L'IA fouille les bases de données, synthétise l'historique en une seconde, et l'humain, bah, il se concentre sur l'empathie.
Il gère l'émotion de l'appel, la négociation, parce que la techno a besoin du supplément d'âme humain pour être efficace.
Et ce supplément d'âme, ce temps, c'est exactement ce que l'artiste Waldmaalam a mis en scène dans son triptyque, cité à la fin du magazine.
Après 50 ans d'absence, il peint des visages qui se fragmentent, qui perdent leur contour, comme absorbés par un flux invisible.
Le magazine fait le lien avec la disparition de la figure du Maalam, le maître artisan. Le Maalam, il enseignait pas juste à faire de la poterie, il transmettait la patience, le temps long, la conscience de l'effort.
Chose que l'IA remplace par la vitesse absolue. Le Maalam enseignait un cheminement, l'IA délivre un résultat instantané.
Et c'est ça la grande conclusion d'Yamag. L'infrastructure, elle est déjà là, la question de l'adoption, elle est obsolète.
Il faut juste définir où l'optimisation mathématique est bénéfique. Et où notre libre arbitre doit rester le chef.
C'est le nouveau terrain de jeu de l'économie, de la politique et de l'art.
Et c'est un enjeu pour quiconque écoute ça aujourd'hui, qu'on utilise l'IA pour préparer une réunion ou lire les infos. Ce qui m'amène à une réflexion finale un peu provocatrice pour clore cette analyse.
Je t'écoute.
Si on se projette dans un futur très proche où une machine peut générer instantanément la réponse parfaite, la stratégie sans faille, et si le luxe ultime, la véritable marque de notre humanité,
oui,
c'était de revendiquer le droit à l'hésitation,
oui,
le droit d'être inefficace et le privilège de prendre le chemin le plus long pour comprendre le monde.
Le privilège de prendre son temps, tout simplement.
Exactement. On vous laisse méditer là-dessus. À très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur.